La rencontre spirituelle, nous allons parler de saints qui ont fondé l'Église de France, en particulier d'une jeune fille, sainte Blandine, qui était très très réputée en France, extrêmement réputée. Je me souviens même dans mon enfance, on en parlait encore beaucoup, et je crois qu'en France, moi je suis québécois de souche évidemment, mais je crois qu'en France on en parle encore beaucoup, en particulier à Lyon. À Lyon, où elle a été martyrisée. Et depuis, aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de saints presque contemporains, 22 ou 23 jeunes Ougandais qui ont été martyrisés à la fin du siècle dernier et canonisés par Paul VI il y a 31 ans. Ces jeunes Ougandais avaient préféré rester fidèles au Christ auquel il venait d'être converti, que de céder aux instances du roi de leur peuple. Ce sera dimanche, le jour de la Pentecôte, c'est l'occasion vraiment de parler de l'Esprit-Saint, c'est lui qui fait les saints. C'est lui qui s'empare des croyants, qui les transforme, comme on peut le lire dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, quand il s'empare des apôtres, quand il s'empare de la Vierge, quand il s'empare des disciples en très grand nombre, et au cours des siècles, il n'a jamais cessé de s'emparer de ceux qui crient vers lui et qui lui disent « Esprit Saint, prends-moi, je suis fatigué d'être moi-même, mais je voudrais être à l'image de l'amour qui jaillit du cœur du Père et du Fils, et qui jaillit du cœur de tous les saints à travers les siècles. » Je vous lis d'ailleurs le beau texte du curé de Saint-Léon de Westmount, l'abbé Yves Guillemette. C'est dans le Prions en Église pour dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte. C'est intitulé « Sous la conduite de l'Esprit ». Lorsque le vent se lève, on dirait que la nature se met à respirer, à s'animer et à vivre. La poussière du sol se met à danser, les arbres font entendre le bruissement de leurs feuilles, les vagues rident la surface des étendues d'eau. Dans tous ces cas, jamais on ne voit le vent. Par contre, on perçoit ses effets. Et si l'Esprit Saint était comme le vent de Dieu qui met tout en mouvement sur son passage. N'est-ce pas l'expérience que font les apôtres lorsque l'Esprit fait irruption dans la demeure où il s'était caché, par crainte des autorités qui avaient condamné Jésus? En un rien de temps, ils sont projetés sur la place publique. Du même souffle, l'Esprit leur donne l'audace de proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Ils ont même un langage qui rend leur message accessible à toute personne qui veut l'entendre. Les apôtres vivent la toute première expérience missionnaire de l'Église. L'Esprit Saint poursuit son œuvre encore aujourd'hui. Le vent de Dieu souffle sur l'Église. Sous la conduite de l'Esprit, des chrétiens et des chrétiennes apprennent à vivre en enfants de Dieu. Ils ne craignent pas non plus de témoigner du Christ en des langues et des langages variés. Ils s'engagent résolument pour que s'étende le règne de l'amour de Dieu, pour que s'étende le règne de l'amour de Dieu. Tout est là. C'est pas tout de croire. Il faut aimer. Et l'abbé Guillemette continue en disant: ils se montrent solidaires des hommes et des femmes dont la dignité est bafouée. Sous la conduite de l'Esprit, les disciples de Jésus se rassemblent pour faire communauté, célébrer le Christ, entendre la parole de Dieu et entrer en dialogue avec Dieu par une prière confiante. Insaisissable l'Esprit? Non. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir à l'œuvre en nous et autour de nous. C'est dans le Prions en Église de dimanche prochain, jour de la Pentecôte, et c'est signé, je vous le rappelle, Yves Guillemette, c'est le curé de Saint-Léon d'Oismantes. Je crois que c'est là qu'est la clé de cette série. Bien saisir que l'action de l'Esprit-Saint agit d'une façon souvent tellement étonnante qu'on appelle à le croire. On se dit, comment se fait-il? Et c'est ainsi que, au début de l'Église, sont morts en l'an 177, c'est pas d'aujourd'hui, morts en 177 à Lyon et à Vienne, des chrétiens qui ont été persécutés, sous un empereur pourtant qui était fort sage, Marc Aurèle. C'était une rafale de persécution. À cette époque, Lyon, vous connaissez la ville de Lyon, n'est-ce pas? Cette ville magnifique au sud de la France, c'était une colonie romaine fondée une cinquantaine d'années avant Jésus-Christ. C'était une excellente position géographique qui lui permet de devenir chef-lieu là, d'une grande province avec sa garnison, son hôtel des monnaies, où on frappait la monnaie. Et elle avait des sociétés financières même, des sociétés commerciales, elle avait des corporations de bateliers, puisqu'il y a là le Rhône et la Saône. Les négociants étaient en relation avec le monde entier à Lyon. Lyon avait ses bâtiments officiels, ses lieux de distraction comme l'amphithéâtre, où mourront tant de chrétiens. Ses faubourgs avec des villas luxueuses. Et les routes étaient bien tenues, se rayonnaient autour de la ville de Lyon. Il y avait des aqueducs aussi. Il y avait un monument sacré qui avait été dédié à la ville de Rome et à l'empereur Auguste. Son hôtel se dressait entre deux immenses statues, deux victoires colossales. Chaque année, au 1er août, la ville de Lyon était le théâtre de grandes solennités religieuses. Et alors, se réunissait l'assemblée, si on peut dire, des cités gauloises, pour célébrer le culte de l'empereur de Rome, le culte impérial. Alors, il y avait une foire, des jeux qui rehaussaient l'éclat de ces fêtes. Ça attirait une foule d'étrangers. Les gens venaient même de la région de la Belgique, au nord, très loin. C'était le grand rassemblement de la paix romaine, de la prospérité romaine et gauloise, puisqu'on est en France, donc en Gaule, à Lyon. Et en termes chrétiens, en termes évangéliques, on pourrait dire que c'était la fête de César et de Mammon. La fête de César, la puissance, et de Mammon, l'argent, le pouvoir et l'argent. Rien n'a changé, c'est encore aujourd'hui la même chose. On célèbre surtout le pouvoir et on célèbre surtout l'argent. Mais une chrétienté s'est formée de très bonne heure à Lyon. L'Évangile était venu d'Orient par la Méditerranée, puis la vallée du Rhône, puisque Lyon est sur le Rhône. Et Lyon était une ville épiscopale très tôt. C'était la pointe avancée du christianisme. Vers la vallée du Rhin, où on retrouve Vienne. Et la communauté de Vienne, en Autriche, aujourd'hui, en 177, l'année de cette mort, ce massacre de chrétiens, était administrée par un diacre, Sanctus, qui fut martyrisé. Il était délégué de l'évêque de Lyon. Alors donc, la persécution se répand de façon catastrophique en l'an 177. C'est terrible. C'est peu avant l'ouverture des réjouissances annuelles dont je vous ai parlé, qui ont lieu le 1er août, je vous ai dit ça. Et là, une hostilité tout à fait soudaine éclate contre les chrétiens à Lyon, dans un milieu pourtant bien cosmopolite. Eusèbe de Césarée, le fameux historien, raconte dans son histoire ecclésiastique de l'époque. Il raconte ce qui s'est passé, et puis il a conservé une admirable lettre écrite par les chrétiens aux églises d'Asie et de Phrygie, qui raconte en détail, de façon tellement extraordinaire comme un reportage moderne, les combats qu'ont été livrés par les martyrs de Lyon et de Vienne. Ils ont souffert leur martyre dans cet amphithéâtre municipal dont je vous ai parlé, et puis aussi dans l'amphithéâtre des Gaules, ou grand amphithéâtre important de la France de l'époque, qui était tout près. Ces chrétiens furent la grande attraction pour un public qui était vraiment sanguinaire. Parmi les plus vaillants de ces catholiques du tout début de l'Église, du IIe siècle, plusieurs portent des noms grecs. L'évêque de Lyon, qui s'appelle Potin, P-O-T-H-I-N, a été extraordinaire. C'était un homme de plus de 90 ans. Il y avait un médecin aussi qui s'appelait Alexandre, qui était venu de Phrygie, mais qui était établi en Gaule depuis des années. Il vivait à Lyon. Il y avait aussi Alcibiade. Il y avait d'autres noms qui sont des noms latins, comme Sanctus, dont je vous ai parlé, le diacre, là, Maturus, puis la fameuse Blandine, cette femme étonnante. Et la lettre qu'a conservée Eusèbe de Césarée est rédigée là, avec une simplicité qui, d'accord, n'exclut pas certains petits envols, je dirais, dogmatiques, des allusions bibliques. Je vous en cite quelques exemples. Il dit que l'Église est Vierge Mère, que le diable est le méchant, l'adversaire, le serpent, la bête. Ce sont des termes qu'on retrouve dans la Bible. Les confesseurs de la foi, les martyrs, sont comparés à des athlètes. Dans cette lettre, on nous parle avec fierté de leur performance. Et je vous assure que peu de documents ont une telle valeur que ce simple compte-rendu, qui a une tonalité absolument nouvelle dans l'histoire du christianisme. Il y a un enthousiasme, un dévouement que l'on retrouve chez ces chrétiens, dans le cœur desquels règne le Christ. Règne l'Esprit-Saint. Ils sont saisis par l'Esprit-Saint. C'est l'idéal du martyr. Il n'y a pas le moindre orgueil chez ces martyrs de Lyon. Ce sont des héros qui estiment que seul le Christ a droit au grand titre de martyr, de témoin, ou encore ceux qui sont déjà morts pour lui. Eux, ils se considèrent comme des confesseurs bien médiocres et bien pauvres. Pourtant, Ils sont vraiment héroïques. Oh, ils sont bien condescendants pour ceux qui sont tombés devant les tortures et qui ont renié leur foi. Ils sont condescendants. Et ils finissent par les évangéliser, par les rejoindre en prison quand ils ont... Parce qu'on les torture, on les retourne en prison. On les torture, on les retourne en prison pour laisser le spectacle durer. Hein? Et alors, ils prient pour leurs bourreaux. Ils sont sans peur devant leur juge et en prison, ben, ils réussissent à ramener à la foi, au Christ, ceux qui avaient renié. Ils sont créateurs de paix. Ils sont créateurs de joie. Ils sont surtout créateurs de charité. Et grâce à Eusèbe de Césarée, eh bien, ce texte, qui est bien un des morceaux les plus splendides que l'on connaisse, a eu un retentissement à travers l'histoire d'Église jusqu'à nos jours. Et voici une traduction de cette lettre que je considère comme une lettre des plus vénérables. C'est vraiment, comprenez-moi, je suis tellement enthousiasmé, moi, par ce texte, que je trouve que c'est une perle de la littérature chrétienne du IIe siècle. C'est un long texte. Je le résume, je vous en lis moins de la moitié, parce que... C'est très beau et je vous recommande, si vous pouvez mettre la main dessus, de le lire au complet. Voici le texte. Les serviteurs du Christ qui habitent Vienne et Lyon, en Gaule, aux frères d'Asie et de Phrygie, qui ont la même foi et la même espérance que nous dans la rédemption. La force de la persécution par ici, la rage et la violence des païens contre les saints, toutes les souffrances qu'ont supportées les bienheureux martyrs défient les narrations que nous pourrions faire de vive voix ou par écrit. En effet, l'ennemi est tombé sur nous de toute sa force. Il alla partout. On nous pourchassa, d'abord dans les maisons, dans les bains. Vous savez, ils avaient des bains publics, hein? Dans les bains, au forum. Puis, on fit défense générale à chacun de nous de paraître en aucun lieu. Plus loin, il est écrit « Des supplices que d'autres estimeraient formidables furent pour eux peu de choses. Ils se hâtaient vers le Christ et montraient, par leur exemple, que les souffrances du temps présent ne sont pas proportionnées à la gloire qui doit être manifestée en nous. » N'est-ce pas, c'est le texte de l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 18. Et on continue ainsi, Eusèbe de Césarée continue ainsi. Et ça va vous rappeler peut-être quelque chose qui est survenu devant la basilique Notre-Dame il n'y a pas longtemps. Écoutez bien ça. Et d'abord, les chrétiens supportèrent généreusement les manifestations populaires. Insultes, coups, violences, spoliations, grêle de pierre, emprisonnement, tout ce qu'une foule enragée a coutume d'imaginer contre des ennemis détestés. Ensuite, ils furent traduits au forum, questionnés en public par le tribun et les magistrats municipaux. Ils confessèrent leur foi et furent tous jetés en prison jusqu'au retour du gouverneur. Et quand il fut là, on les mena devant lui et les traita avec la cruauté d'usage. Et là, on raconte le martyre d'un jeune qui s'appelait Epagathus, qui se trouvait avec les autres chrétiens. Il débordait de charité, dit le texte, débordait de charité envers Dieu et le prochain. Sa vie austère lui méritait, malgré sa jeunesse, l'éloge donné au vieillard Zacharie. Oui, il marchait sans reproche, et dans Luc, au chapitre 1, verset 6, il marchait sans reproche dans tous les commandements et observances du Seigneur. C'était un jeune. Il était diligent pour rendre service, très zélé pour Dieu, tout bouillant de l'esprit. Un pareil homme ne put tolérer la procédure extravagante instituée contre nous. Et là, écoutez bien ça, on voit bien qu'il est jeune. Dans un sursaut d'indignation, il réclama la parole. Lui aussi, pour défendre ses frères et montrer qu'il n'y avait rien d'irreligieux ni d'impie parmi nous. Mais ceux qui étaient autour du tribunal crièrent haro sur lui, car c'était un homme connu, et le gouverneur n'admit point cette requête pourtant juste. Et ce jeune homme, l'Epagathus, se contenta de lui demander, c'est-à-dire plutôt le juge se contenta de lui demander si Epagathus était chrétien, lui aussi. Epagathus le reconnut d'une voix vibrante, et fut admis ainsi au nombre des martyrs. Il s'était comporté en avocat des chrétiens. C'est qu'il avait en lui, écoutez bien le texte, en cette avant-veille de la Pentecôte, et c'est écrit ça dans les premiers temps de l'Église, c'est qu'il avait en lui le Paraclet, l'Esprit-Saint, plus abondamment que le vieillard Zacharie. Ce qu'il prouva, ce jeune homme, par son ardente charité, qu'il l'exposa à la mort pour le salut de ses frères. Il était, et il est, un véritable disciple du Christ. Et là, il cite l'Apocalypse, « suivant l'agneau partout où il va ». C'est émouvant de penser que notre foi, à travers les siècles, s'est établie souvent sur le courage de gens très jeunes, des laïcs, mais des laïcs qui ont été bien conduits par des évêques solides, par des prêtres courageux. Dans le texte, on dit, dès lors, il s'est fait un partage parmi les chrétiens. Les uns se révélèrent bien prêts aux martyrs et de tout cœur rendirent ce témoignage suprême. Mais d'autres montrèrent qu'ils étaient sans entraînement, sans préparation, faibles et incapables de supporter l'attention d'un grand combat. Ça m'émeut, moi, de penser que certains se sont montrés faibles. Je me reconnais parmi eux. Je sais que j'aurais probablement été là, moi. Quand on y pense, ça doit être extrêmement difficile. Et le texte dit, 10 environ parmi eux tombèrent et furent pour nous cause d'une grande peine et d'une componction immense. Ils brisèrent le courage des autres qui n'étaient pas encore arrêtés et qui, malgré de rudes épreuves, assistaient ceux qui confessaient leur foi et gardaient la liaison avec eux. Alors, Nous fûmes en proie à une grande inquiétude. Comment tourneraient les professions de la foi? Nous pensions à leur issue et nous craignions que quelqu'un ne tombât. Cependant, chaque jour, on en saisissait qui était digne de compléter le nombre des martyrs. Et c'est ainsi qu'on rafla dans les deux églises, à Lyon et à Vienne, les plus zélés, les artisans de ce qui existe par ici. Et on arrêta aussi quelques-uns de nos serviteurs qui étaient païens, car le gouverneur avait décrété de nous rechercher tous. Et ceux-ci, ces païens, pipés par Satan, terrifiés par les tortures qu'ils voyaient infligées aux saints, et incités à cela par les soldats, se mirent à nous calomnier en nous accusant d'inceste d'Œdipe. Je vous fais grâce de ce que ça veut dire, vous comprenez, n'est-ce pas? Ils nous accusaient aussi d'autres énormités qu'il ne nous est pas permis de dire, ni même de penser ou croire possible chez des hommes. Ça me fait penser à toutes ces accusations que l'on voit à la télévision contre les prêtres dans des émissions dramatiques, où le rôle des prêtres est souvent un rôle pénible, où on accuse notre clergé de mille défauts, de mille faiblesses, et on oublie de penser à la très grande majorité de nos prêtres, qui sont des hommes honnêtes, serviables. Ce ne sont peut-être pas de grands prophètes et de grands saints pour la plupart, mais que d'hommes courageux j'ai rencontrés parmi eux. Enfin, je termine cette parenthèse. Je continue la lecture de ce texte. De ce texte d'Eusèbe de Césarée, qui date du tout début de l'Église et qui raconte le martyre des premiers saints de Lyon et de Vienne au IIe siècle. Voici la suite. Ces racontars se répandirent. Tous devinrent furieux contre nous. Des gens qui naguère étaient de nos relations et continuaient à nous ménager nous trouvèrent du coup absolument intolérables et grincèrent des dents contre nous. Ainsi s'accomplissait la parole de notre Seigneur, « Il viendra un temps où quiconque vous tuera, et ils croiront rendre hommage à Dieu. » C'est dans Jean, chapitre 16, verset 2. « Et alors les saints martyrs n'eurent plus qu'à endurer des supplices au-dessus de toute description. Satan brûlait d'envie de leur tirer à eux aussi quelques paroles de calomnie. Surexcité, toute la colère de la plèbe, du gouverneur et de l'armée tomba sur Sanctus, le diacre de Vienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur Maturus, un néophyte, mais un généreux combattant, sur Attale de Pergame, qui fut toujours la colonne et le soutien de notre Église, et sur Blandine, que vous avez signalé, Blandine. Donc, on va s'attarder sur le cas de cette fameuse Blandine. C'est un nom à retenir, hein? Vénérée à travers des millénaires. Voici le texte. En elle, le Christ montra que ce qui paraît aux hommes sans prix, sans beauté, méprisable, est en grand honneur auprès de Dieu, à cause de l'amour qu'on lui prouve par des actes et non par des fanfaronnades de l'imagination. Nous craignons tous, avec sa maîtresse selon la chair, qui combattait elle aussi parmi les martyrs, qu'elle ne put faire franchement profession de la foi à cause de sa faiblesse physique. Ça peut être un encouragement, ça, pour toutes les jeunes femmes ou des dames qui m'écoutent et qui se sentent faibles, petites, bonnes à rien. Elles pensent qu'elles n'ont pas de qualité, pas de vertu ou à peine. Elles sont solitaires. Elles se retrouvent à parler toutes seules comme pour remplir le silence. Elles ont peut-être un chat, une plante. Elle regarde par la fenêtre et s'ennuie. Dites-vous qu'au fond de vous, l'Esprit-Saint peut faire de vous des choses extraordinaires comme il l'a fait pour Sainte Blandine. Voici la suite du texte. Mais Blandine fut remplie d'une telle force qu'elle fatigua et découragea les bourreaux qui se succédèrent auprès d'elle depuis le matin jusqu'au soir et épuisèrent tout l'arsenal des supplices. Ils s'avouèrent vaincus. Ils n'avaient plus rien à lui faire. Ils s'étonnaient qu'il lui restât encore un souffle de vie, alors que tout son corps était déchiré et labouré. Ils certifiaient que le moindre de ses tourments était suffisant pour ôter la vie. Et tout leur assortiment n'avait pas réussi. Mais la bienheureuse, comme un généreux athlète, retrouvait des forces à confesser sa foi. C'était pour elle un réconfort, un repos et un apaisement de ses souffrances de dire « Je suis chrétienne et chez nous, il n'y a rien de mal. Beaucoup plus loin dans le texte, on revient sur Blandine et on ajoute ceci. Blandine, suspendue à un poteau, était exposée en pâture aux bêtes qu'on avait lâchées. La vue de ce crucifix improvisé, qui priait d'une voix assurée, animait grandement les combattants. Ils voyaient dans leur sœur Blandine, durant le combat, avec les yeux du corps, celui qui avait été crucifié pour eux, afin de garantir aux fidèles de souffrir pour la gloire du Christ. Pour la gloire du Christ. Aucune des bêtes, cette fois-là, ne toucha Blandine. Les bêtes, ce sont évidemment des lions, des bêtes sauvages, des taureaux même. On la détacha donc de son poteau et on la remit en prison, en réserve pour un autre combat. Ses multiples performances stimulaient nos frères. Cette petite, cette faible, cette méprisée avec le grand athlète imbattable qu'est le Christ qu'elle avait revêtu, était victorieuse à plusieurs reprises de l'adversaire. De haute lutte, elle s'est jugée la couronne de l'immortalité. Et enfin, beaucoup plus loin dans le texte, on dit, après tous ces supplices, le dernier jour des combats singuliers, Blandine fut réintroduite avec Ponticus, un jeune gars d'une quinzaine d'années. Chaque jour, ils avaient été amenés pour voir les autres souffrir. On voulait les contraindre ainsi à jurer par les idoles, mais tous deux, Blandine et Ponticus, restèrent calmes et dédaigneux. Fureur du public, qui fut sans pitié pour l'âge de l'enfant, 15 ans quand on y pense, sans respect pour le sexe de Blandine, on les livra à toutes les atrocités. Ils parcoururent tout le cycle des supplices. Après chaque épreuve, on les pressait de jurer, mais sans pouvoir y réussir. Le jeune Ponticus était encouragé par sa sœur sur le sens mystique, spirituel. Les païens voyaient bien que c'était elle qui l'exhortait et l'affermissait. Il endura vaillamment toutes les tortures et rendit l'âme. Et la bienheureuse Blandine, elle, restait la dernière, comme une noble mère qui lance ses fils vainqueurs pour qu'ils la devancent chez le roi. Elle soutint, elle aussi, tous les combats de ses enfants et se hâta de les rejoindre. Et après les fouets, puis les bêtes, puis le grill, elle fut grillée. Elle fut mise dans un filet et livrée à un taureau et plusieurs fois projetée en l'air par le taureau. Elle n'avait plus le sentiment de ce qui se passait tant elle était prise par son espérance, son attente des promesses, son entretien avec le Christ. On l'immola elle aussi et les païens eux-mêmes avouaient que jamais chez eux une femme n'avait enduré des souffrances aussi nombreuses et aussi cruelles. Ce sont des textes qui sont tellement authentiques et tellement vrais quand on les lit, qu'ils ont à peine à croire qu'Eusèbe de Césarée ait pu exagérer. Je ne le crois pas. En terminant la lecture de ce texte d'Eusèbe de Césarée, il ajoute pour terminer son texte, « Ceux qui étaient morts asphyxiés en prison, on les jeta aux chiens, avec sentinelles de jour et de nuit pour nous interdire de les enterrer. Semblablement, on exposa ce dont n'avaient pas voulu les bêtes ou le bûcher, des lambeaux déchirés ou carbonisés, des têtes coupées, des troncs mutilés. » Mon Dieu, c'est comme au Rwanda. Cela resta également sans sépulture, avec une garde de soldats pendant plusieurs jours. Des païens frémissaient et grinçaient des dents contre les martyrisés. On aurait dû les soumettre à des supplices encore plus forts, disait-il. D'autres se gaussaient des morts et les insultaient. Ils vantaient leurs idoles qui, disait-il, avaient bien puni ces gens-là. Quelques-uns, plus modérés, paraissaient éprouver une certaine pitié. Ils se répandaient en plainte et en disant, « Où est leur Dieu ? À quoi bon ce culte qu'ils ont préféré à leur vie ?» Et ainsi, leurs sentiments étaient assez variés. Et le texte termine ainsi, « De notre côté, vive était la douleur de ne pouvoir enterrer les corps. La nuit ne nous fut pas favorable. L'argent ne trouva aucune personne à séduire et les prières échouèrent. La garde était acharnée, comme si elle avait un réel intérêt à priver ses os de sépulture. Les corps des martyrs furent donc exposés aux injures de l'air pendant 6 jours, et ensuite on les brûla, et les cendres furent balayées par les impies jusqu'au Rhône, jusqu'au fleuve, là, près de Lyon, qui coule près de là, de peur qu'il ne restât sur la terre une relique. Il faisait cela comme s'il pouvait vaincre Dieu et ôter aux morts la résurrection. Rendons sans objet, disait-il, leur espérance dans une résurrection. C'est par elle qu'ils ont introduit chez nous une religion étrangère et nouvelle, et qu'ils méprisent les tourments, qu'ils sont prêts à marcher joyeusement à la mort. Et maintenant, voyons s'ils ressusciteront et si leur Dieu est capable de les secourir et de les tirer de nos mains. Fin du texte. Je pense bien que Dieu les a tirés des mains des gens qui étaient contre eux, car à la fin du 2e siècle, si l'Occident n'avait pas encore commencé à rendre un culte aux martyrs, comme l'Orient le pratiquait depuis longtemps, eh bien les martyrs de Lyon eurent la chance d'avoir le récit que je viens de vous lire, le récit de leur mort, écrit par un témoin direct, ce qui est d'un prix inestimable, mais leur corps avait disparu entièrement, le corps dans les eaux du Rhône, et comme au 1er siècle, bien la dévotion des fidèles s'accrochait aux souvenirs sensibles. Leur culte, comme il n'y avait pas de souvenirs sensibles, eh bien, n'eut pas le même éclat que celui de beaucoup d'autres. Mais l'histoire de l'Église a remédié à ça, et l'Église universelle connut de bonne heure Saint Potin, cet homme, le nonagénaire qui a souffert un martyr que je ne vous ai pas lu, et ses compagnons. Et Eusèbe de Césarée, en insérant le récit de leur martyr dans son histoire ecclésiastique, leur a donné la célébrité. On ne peut pas dire que leur fils ait été célébré constamment dans l'Église universelle. C'est surtout à Lyon qu'on les célèbre très, très courageusement, dans quelques diocèses, mais on en parle à travers l'Église. Il y a aussi un autre martyr de la... un siècle plus tard, un peu plus de 100 ans plus tard, c'est Saint Érasme. Je le signale à cause du nom Érasme. Les récits de sa vie sont pas très très sûrs. Il aurait été évêque en Campanie, à Formia. Et puis, il a exercé d'abord son épiscopat en Syrie. En Syrie. La Syrie, à l'époque, était profondément chrétienne. C'est à la suite de l'invasion des musulmans qu'elle est passée à l'islam, quelques siècles plus tard. Alors, la persécution de Dioclétien a forcé Saint Érasme à se réfugier dans la montagne où il a vécu en ermite. Mais on découvrit sa cachette, puis on pensa le faire périr sous les coups, puis par le feu, puis par la faim, mais en vain. Un ange, dit-on, l'a amené dans la province romaine d'Illyrie, où il a conquis au Christ nombreux gens de l'endroit. Et retrouvé par la police, bien, il a été supplicié de nouveau. C'est alors que l'ange, toujours son ange, l'a amené dans la Campanie. Et c'est là que il est mort. Le pape Saint Grégoire le Grand signale que ses reliques se trouvaient encore au 6e siècle dans la cathédrale de Formia en Campanie. Mais les Sarrasins, les musulmans, détruisirent la ville en 842. Ça, c'est environ 200 ans après le début de l'islam, et les musulmans parcouraient des territoires immenses, malheureusement, en détruisant des cathédrales, des couvents. C'était terrible, c'était un saccage général. Même si on doit beaucoup à la présence des musulmans dans certaines régions d'Europe, en particulier en Espagne, où ils ont régné pendant des siècles et des siècles, on leur doit beaucoup sur le plan scientifique et sur le plan culturel. Et c'est dommage, toutes ces choses-là. C'est vraiment pénible quand on y pense. Alors, on a transporté les ossements de ce saint Érasme à Gaète, où il est resté patron de cette ville. Et on représente saint Érasme éventré. Écoutez ça. Et des bourreaux qui enroulent ses intestins sur un treuil. C'est une scène horrible. Mais ça a inspiré un tableau très célèbre de Poussin, que l'on retrouve dans la Pinacothèque du Vatican. C'est un tableau terrible. C'est assez curieux que le peintre Poussin ait pu représenter ce Saint Érasme éventré comme ça avec des bourreaux qui enroulent ses intestins sur un treuil. Mais comme il y a un treuil, et puis les entrailles, n'est-ce pas? Ben alors on invoque ce Saint Érasme pour les maux d'intestin. Et puis le treuil que l'on voit sur le tableau de Poussin. Mais ça rappelle le cabestan des navires, hein, puis ça a valu à Saint Érasme d'être autrefois patron des marins. Dans le Prion en Église, on parle de Saint Marcellin, Saint Pierre et leurs compagnons. Ben, Saint Marcellin était prêtre, on n'en est pas sûr. Et Saint Pierre et Marcellin qui sont morts en l'an 304, lui était exorciste. Ils ont été décapités sous Dioclétien. Ce que Dioclétien en a tué des chrétiens, c'est pas possible. Le pape Damase a rédigé une épitaphe pour les deux saints, Saint Marcellin et Saint Pierre. Et on dit que quand il était jeune, Saint Damase avait pu entendre des souvenirs de la bouche même de leur bourreau qui s'était converti. Et les deux martyrs étaient assez connus, hein. Ils ont eu ce grand honneur, c'est pour ça que j'en parle, d'être inscrits au canon de la messe romaine en latin d'autrefois. Les gens plus âgés se souviennent de nos messes latines et on mentionnait leur nom. Donc, ils ont été invoqués chaque jour, pendant des siècles, par des milliers de prêtres dans tout l'univers. C'est incroyable. Notons quelques détails. D'après une passio, comme on dit, un texte qui est assez ancien, on raconte qu'en prison, les deux saints ont exhorté et ont converti leurs compagnons de captivité, dont l'un se nommait Artémius. Puis ils sont condamnés par un juge qui s'appelait Severus, c'est-à-dire sévère. Alors on les mène secrètement au Sylvanigra, c'est-à-dire au bois noir, un bois probablement parce que les arbres étaient sombres, pour que leur tombe demeure inconnue. On les enterre là, mais grâce à une indiscrétion, probablement de leur bourreau qui s'est converti, bien deux femmes, Firmina et Lucilla, sont venues recueillir leur corps. On attachait beaucoup d'importance aux reliques des saints. On les enterre à Saint-Tiburce, une catacombe sur la voie Lavicane, et je le signale parce que l'empereur Constantin, le fameux empereur Constantin qui s'est converti au catholicisme, a fait élever une église sur leur tombe. Et c'est dans cette église, écoutez bien ça, qu'il a enseveli sa mère, la fameuse Sainte Hélène, qui a retrouvé la vraie croix. Je vous signale aussi que le 2 juin, c'est la fête d'un saint qui était très populaire en Suède, Saint-Étienne, évêque et martyr vers 1072. Il avait été élevé dans un monastère. Il a été l'apôtre de la Suède. Il a été martyrisé. Et probablement vers 1072, croit-on. Et le tombeau de Saint-Étienne a été honoré, à Norala, pendant des siècles. Et son culte immense en Suède s'est arrêté au moment de la réforme protestante et de l'implantation du luthéranisme dans toute la Suède. Il y a très très peu de catholiques en Suède, j'en ai rencontré, mais j'ai aussi beaucoup fréquenté en Suède les luthériens qui sont vraiment, pour ceux qui sont vraiment croyants, des hommes et des femmes remarquables que j'ai beaucoup estimés. Il y a un autre fou de Dieu aujourd'hui, je vous en ai parlé hier, des gens qui vivent des vies incroyables. C'est Saint-Nicolas le pèlerin, qui est mort pas longtemps après Saint-Étienne de Suède. Il est mort en 1094. Il est né en Grèce, puis il est venu en Italie. Il a parcouru la Pouille dans le sud et une croix en main, revêtu d'une blouse qui lui tombait aux genoux. Et il avait les mollets nus, ce qui indiquait un ascétisme vigoureux. Il criait constamment « Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison !» Comme s'il avait perdu un peu la boule. Hein. Et les enfants étaient attirés par les petits cadeaux qu'il leur donnait, alors ils se joignaient à lui, puis ils répétaient en chœur le cri « Kyrie eleison, Kyrie eleison !» Alors les grandes personnes, les gens raisonnables, là, chassait les enfants, puis rabrouait ce pauvre Benet, qui est mort à Trani. Mais qu'est-ce qui est arrivé après sa mort? Eh bien, de nombreux miracles, des guérisons. Si bien que le pape Urbain II a compris qu'au cœur de ce pauvre homme, un peu simpliste, il y avait un cœur de feu, qui était saisi par l'Esprit-Saint, car l'Esprit-Saint s'empare de qui il veut, hein? Il ne s'empare pas simplement des diplômés d'université, des docteurs en ceci et en cela. Il l'a fait, on voit bien saint Thomas d'Aquin, mais il le fait aussi avec des gens qui ont un peu perdu la boule, on dirait. Alors le pape Urbain II l'a canonisé en 1098, hein? À peine 4 ans après sa mort. Le 4 octobre 1143, on a transféré ses reliques dans une église qui était bâtie en son honneur. Je trouve ça formidable que l'église sache, même chez le pape, reconnaître chez quelqu'un qui est moins que rien, aux yeux du monde, là, savent reconnaître la grandeur. Puis il y a eu d'importantes cérémonies qui se sont faites autour de ce pauvre saint, Saint Nicolas le Pèlerin. C'était organisé même en 16, on a des traces en 1603, 1611. Il y a eu des fêtes énormes le 5 octobre 1616, et puis encore pendant longtemps. Moi, ça m'émeut que cette église chrétienne, cette église catholique, sache comme ça reconnaître les petits, les pauvres. Il y a aussi Saint Sadoc et ses 48 compagnons, ce sont des martyrs en Pologne qui ont été tués par des Tartares en 1260. Sadoc avait été désigné par Saint Dominique lui-même, fondateur des Dominicains, au chapitre général de l'ordre qui s'était tenu à Bologne en 1221 pour prêcher en Hongrie. Et à son arrivée dans ce pays, bien Sadoc vit la nuit une foule de démons qui lui criaient avec rage « Tu viens ici pour nous chasser ?» Et frère Sadoc avait pour tout bataillon quoi? 3 novices fort jeunes, des novices dominicains. Il a passé plusieurs années en Hongrie, puis a été placé à la tête du couvent fondé à Sandomir, une ville entre Cracovie et Varsovie. Puis là, les Tartares ont envahi leur couvent le soir. Et écoutez bien ça, c'est assez émouvant. C'est pour ça que je vous en parle. C'était l'heure paisible du Salve Regina. Ceux qui sont allés dans des monastères savent, hein, quand on va à Saint-Benoît-du-Lac, et puis chez les Trappistes et tout ça, quand ils chantent le dernier chant de la journée avant d'aller se coucher, qui est le Salve Regina. Salut, ô reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Eh bien, il chantait le Salve Regina, puis tandis que les Tartares étaient là, les Tartares se sont mis à les égorger et arrêter leur chant. Leur culte fut approuvé par le pape Pie VII pour tout l'ordre dominicain. Alors, les saints martyrs de l'Ouganda étaient des jeunes gens, de jeunes laïcs, qui ont été martyrisés en 1886, donc un peu plus de 100 ans, c'est très récent. L'Ouganda, comme chacun sait, c'est un pays d'Afrique qui est situé dans la région des Grands Lacs, là, entre le lac Victoria puis le lac Albert. Et c'est là que 22 membres d'une chrétienté qui était toute jeune, on dit les premiers catéchumènes, n'est-ce pas, avaient reçu le baptême 6 ans plus tôt seulement, hein? Et ils moururent pour leur foi, donc en 1886, avec une vaillance là, qui rappelle les plus beaux jours des premières persécutions de l'Église antique, dont je viens de vous parler de long en large. On peut dire honneur aux Pères Blancs qui les ont évangélisés. Puis en même temps, ils sont l'honneur de l'Église africaine, l'Église du continent noir. En Ouganda, la religion catholique s'était implantée facilement à cause du bon vouloir du roi. Mais le roi est mort et son successeur, malheureusement poussé par des musulmans et craignant que le commerce des esclaves ne vînt à s'arrêter à cause des idées chrétiennes, s'est décidé à sévir contre les chrétiens. Mais ce nouveau prince avait des mœurs contre nature. Il aimait les jeunes gens. Il s'irritait de voir que ces jeunes pages chrétiens ne venaient pas le rejoindre la nuit. Alors il a décrété que tous ceux qui priaient, c'est-à-dire tous ceux qui étaient chrétiens, seraient mis à mort. Alors les missionnaires s'étaient éloignés, puis il avait la partie belle. Charles Luanga, le chef des pages, qui était baptisé, écoutez bien ça, le 15 novembre 1885, a péri lentement. Il était fraîchement baptisé. On lui grilla d'abord les pieds, puis le reste du corps progressivement. Et d'autres adolescents moururent avec lui enveloppés dans des roseaux, comme dans des tapis de roseaux. Tout était savamment disposé pour que les flammes les grignotent peu à peu. Et les bourreaux étaient surpris, car un murmure de prière s'élevait de ces roseaux vivants. Et ce chant de prière allait en crescendo avec la souffrance. Ça augmentait. Il n'y avait aucun hurlement, ni de supplication lâche, ni de malédiction. Ils étaient tout petits, trois des petits qui craignaient d'être oubliés et ou laissés de côté, se sont dressés et ont déclaré nettement leur foi. Ils ont voulu mourir avec les autres pages. On se dit, mais c'est pas possible, mais c'est vrai, les témoins sont là, il y a 100 ans. Et d'autres dirent qu'ils ne cesseraient jamais de prier tant qu'ils vivraient. Ils n'ont pas été tués, ceux-là. Que ces petits noirs sont admirables. Il n'y a pas eu que des enfants à donner leur vie. Il y avait Mathias Kalemba Murumba, un homme âgé de 50 ans, en 1886. Il avait été baptisé 4 ans plus tôt, le 28 mai 1882. Il exerçait la fonction de juge. Il avait connu l'islam et le protestantisme avant de se faire catholique. Il était devenu propagandiste extrêmement zélé. Le ministre du roi lui a fait trancher les pieds et les mains. On découpa sur son dos des bandes de peau que l'on fit griller sous les yeux du patient lui-même. Et le supplice avait eu lieu sur une colline déserte, puis on a ligaturé soigneusement les membres pour arrêter l'hémorragie. On l'a abandonné, ce pauvre martyr encore bien vivant. 3 jours après, des esclaves sont venus couper des roseaux dans le voisinage quand ils entendirent des appels, puis ils ont trouvé Mathias qui les supplia de lui donner à boire. Mais ils s'enfuirent effrayés par l'aspect horrible du mutilé. Il y a aussi André Kagoua, qui était ami du prince. Il avait reçu le baptême le 27 mai 1882, la veille de l'autre. Au cours d'une épidémie, il avait fait preuve d'un dévouement extrême, en soignant, en baptisant, en ensevelissant. Et le ministre du roi, qui était absolument mécontent de voir l'influence qu'il prenait sur ses propres enfants, a demandé à son maître la permission de le supprimer, puis il l'a obtenu. Il jura qu'il ne mangerait pas tant qu'on ne lui aurait pas apporté la tête d'André Kagoua. Et c'est ainsi que cet André Kagoua fut décapité le 26 mai 1886, pour ainsi dire, presque 4 ans après son baptême. Il ne lui restait qu'un jour pour fêter le 4e anniversaire de son baptême. Il avait 30 ans. Et voici pour finir un retardataire. C'est Jean-Marie, ou on l'appelle en langage africain, Yamari. I-A-M-A-R-I. Alors, Yamari, j'aime autant ça que Jean-Marie, finalement. C'est plus respectueux pour la culture de ces gens, pour lesquels j'ai la plus haute admiration. J'ai passé bien des mois en Afrique, au Cameroun et ailleurs, et j'ai appris à tellement aimer ces chrétiens là-bas, la fraîcheur de leur foi, la joie. Oh, les messes merveilleuses auxquelles j'ai assisté là-bas, que c'est merveilleux. J'en ai même tourné une que j'ai intitulée « Messe africaine » qui a fait le tour du monde, qui a été présentée dans près de 40 pays. C'est une joie. Alors Jean-Marie, Yamari, avait mérité pour sa gravité le nom de Mouzéi, qui veut dire « vieillard ». Il avait été baptisé à la Toussaint, le 1er novembre 1885. On racontait qu'il avait appris tout son catéchisme en un seul jour. C'est possible, vous savez. Est-ce que c'est pas André Frossard, qui ne connaissant rien du christianisme, entre dans une chapelle, voit le Saint-Sacrement et contemple un cierge à côté, ressent au fond de son cœur une compréhension totale du christianisme? Alphonse Ratisbonne, aussi banquier, jeune banquier, prêt à se marier, qui se convertit ainsi à Sant'Andrea dell'Efrate et à Rome, au pied d'une statue de la Vierge. Et en un seul instant, ce juif a tout saisi. On l'a conduit au Vatican. En dedans de quelques jours, il répondait à toutes les questions des cardinaux et des théologiens. Curieux. Alors donc, ce Yamari, Jean-Marie, qui avait été baptisé à la Toussaint 85, on racontait qu'il avait appris tout son catéchisme en un jour, vous ai-je dit. Alors, il donnait largement aux pauvres, il s'intéressait aux malades, il rachetait des captifs qu'il évangélisait. Il a été confirmé le 3 juin 1886. Il n'a pas voulu fuir la persécution. Alors, le ministre royal le fit noyer dans un étang le 27 janvier 1887. En somme, le sang des martyrs, ça fait germer les chrétiens. Ces 22 héros de l'Ouganda ont préparé une chrétienté imposante de plusieurs centaines de milliers de baptisés, de catéchumènes en l'espace de quelques années. Pie X a introduit la cause de béatification ou de déclaration de martyr pour ces gens merveilleux, Charles Luanga, Mathias Murumba et leurs compagnons, le 15 août 1912. Alors, Benoît XV les a déclarés bienheureux le 6 juin 1920 et Paul VI les a canonisés en 1964. Joseph Mukasa Malikoudembe, 26 ans, a supplié le souverain qui voulait le tuer, « Pitié, majesté, Dieu déteste l'impureté, laisse les chrétiens tranquilles. » Le Mathias Mulumba, de 50 ans, dont je vous ai parlé, affirme « Il est possédé de Dieu. » En parlant des autres, et on a parlé de lui en disant la même chose, « Il est mort à Kampala, les bras amputés, les jambes sectionnées, après 3 jours d'agonie. » Je vous signale aussi Kizito, le Benjamin des martyrs, 15 ans, qui était un sportif d'une exemplaire pureté. Il a été baptisé in extremis, juste au moment de sa mort, par Charles Luanga. Il y en a un jeune de 25 ans, Mukasa Kiriwasmansu, catéchumène, pétri d'humour, j'aime bien ça. On le saisit au dernier moment, il déclara à ses compagnons, « Heureux de vous retrouver, on a failli m'oublier. » Que c'est étonnant. C'est bouleversant. Paul VI, au moment de la canonisation, a proclamé des choses magnifiques. Ces martyrs africains ajoutent au martyrologe ce livre des vainqueurs, des pages évocatrices d'événements tout à la fois sinistres et splendides. Et voilà certes une page susceptible de rejoindre ces glorieux récits de l'Afrique ancienne, dont, hommes modernes de peu de foi, nous estimions qu'il n'aurait jamais de suite comparable. Vous savez qu'en Égypte, en Afrique, au début de l'Église, il y a eu de nombreux martyrs. Et ainsi, on continue en Afrique aujourd'hui. Et nous devrions prier d'ailleurs pour ces pauvres martyrs chrétiens du sud du Soudan, qui sont malheureusement persécutés par des musulmans de nos jours. Prions nos frères musulmans de Montréal, nos frères musulmans de l'Occident, où nous les recevons, où ils construisent leurs mosquées, où nous écrivons des articles dans nos journaux, on les interviewe à la télévision, à la radio, pour entendre leur foi, comme on le fait ici à Radio Ville-Marie. Nous leur demandons de faire pression pour qu'au Soudan cessent ces persécutions. Je vous signale en terminant que Michel Croast, qui donne une conférence mardi le 13 juin à l'église Saint-Pierre-Apôtre à 19h30, en donne une aussi au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs quelques jours plus tôt, soit jeudi le 8 juin à 20h. C'est au métro Cadillac, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, Michel Croast, conférence à 20h, jeudi le 8 juin 1995. Et enfin, en terminant, je vous rappelle que si vous voulez vous laisser saisir par l'Esprit Saint à l'occasion de la Pentecôte, criez vers lui. Rappelez-vous le souvenir de Sainte Blandine, de ces saints de l'Ouganda, des gens qui ont vraiment voulu vivre pour Jésus-Christ. Et s'il vous reste un peu d'argent de côté, je reviens sur la question de l'argent. C'est pas pour en parler de l'argent, mais c'est simplement pour faciliter la transmission du message laissé par tous ces saints. La transmission du message laissé par le Christ, par l'Église, par l'ensemble des chrétiens. Mais si vous voulez faire vos chèques à Radio Ville-Marie, 505 avenue du Mont-Cassin, 505 avenue du Mont-Cassin, Montréal, H3L1W7. Je vous rappelle que nous sommes des bénévoles. Je suis bénévole, moi. Bon, ça me prend 3 heures aller-retour, c'est-à-dire 1h30 pour venir, 1h30 retour, en autobus, en métro. C'est loin de chez moi. Je suis heureux de venir parler de l'Église, du Christ, de ses saints. Ça me fait plaisir aussi de travailler durant l'après-midi et la soirée pour préparer ces émissions. Ça me fait plaisir. Bon, c'est pas pour me vanter que je dis ça, c'est simplement pour vous dire que si vous voulez nous aider, ça coûte très cher, hein? Alors, veuillez nous écrire, 505 avenue du Mont-Cassin, H3L1W7. Vous faites vos chèques à Radio Ville-Marie Incorporée et nous vous envoyons des reçus pour fin d'impôt. Si 1000 personnes envoyaient 100 dollars, ça ferait 100 000 dollars. Que Dieu vous vienne en aide et que l'Esprit Saint prenne soin de vous, vous envahisse de plus en plus pour faire de vous tous des saints, c'est-à-dire des gens heureux.